Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours?
Les portraits?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, bah, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, bah, j'ai mappé la foule de
Slyson. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver?
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci.
Marmite FM vous propose d'écouter la première des quatre parties consacrées au parcours de Catherine Papouin, une émission présentée par Nouradine Agne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Portrait sur Marmite FM 88.4. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons Catherine Papouin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes trésorière de l'association Vivre Debout, une association saint-quentinoise qui a pour but d'améliorer la vie des adultes grands handicapés physiques. Et on va parler justement de cette association dans quelques instants. Mais pour vous présenter à nos auditrices, à nos auditeurs, on va commencer par notre traditionnelle carte d'identité. Bon, je sais que ça fait un petit peu comme si on était au poste de police. Voilà. On vous demande de sortir vos papiers. Alors, je vous demande votre nom de famille.
Papouin, avec un U.
Avec un U.
Oui, c'est-à-dire P-A-P-O-U-I-N, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de ma famille qui n'a pas de U, alors qu'on fait partie de la même famille, mais traditionnellement, en Normandie, tous les fils aînés avaient comme prénom François.
D'accord.
Et donc, il y a eu à un moment donné, il y a quatre générations de ça, un secrétaire de mairie qui en avait marre de confondre les François Papouin et qui a décidé de les différencier en rajoutant un U.
D'accord. Donc, voilà, l'histoire du U de Papouin.
Voilà.
Donc, votre prénom?
Catherine.
J'ai d'autres prénoms?
Ouais. Suzanne, Angèle.
Suzanne et Angèle.
Ouais, mes deux grands-mères.
Les deux grands-mères. Alors, votre date de naissance?
24-08-55.
Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission, on ne demande pas... on demande pas l'âge à une dame.
Bah, écoutez, j'ai 64 ans.
Ça fait 64 ans. Alors, votre lieu de naissance?
Rugles. Rugles, dans le département de l'Eure, en Haute-Normandie.
En Haute-Normandie, d'accord.
Et je suis née... Chez mes parents, ma mère n'est pas allée à la clinique. En fait, j'ai deux frères aînés. Les accouchements s'étaient pas très bien passés. Donc, ma mère et mon père avaient décidé que j'accoucherais, que je naîtrais. Dans la maison familiale.
Voilà, parce que ça s'était pas passé, bien passé pour vos deux grands frères à l'hôpital.
Voilà, voilà. Exactement. Donc, et puis, bon, mon père. Avait décidé en fait que qu'on mettrait pas cette naissance dans les mains de médecins, mais enfin il y a un médecin bien sûr qui est intervenu, mais à la maison, voilà.
En tout cas, ça s'est bien passé.
Oui.
À la maison. Alors justement, vos parents, votre père, qu'est-ce qu'il faisait comme
métier? Alors mon père est décédé il y a une quinzaine d'années. Mon père était charpentier couvreur.
D'accord.
Et il avait une spécialité, en fait, il travaillait pour les Monuments de France. Il travaillait pour les bâtiments classés monuments historiques, les églises, les chapelles, les châteaux. Et ma mère était femme au foyer et aidait beaucoup, en fait, l'entreprise familiale.
Au niveau de votre scolarité, alors, c'était une scolarité plutôt studieuse ou...
Alors ça, c'est un point intéressant. Intéressant parce que je suis tombée malade à l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est pratiquement l'entrée en CP. Donc, je suis allée à l'école maternelle. J'ai intégré le CP. Et en cours de CP, ma maladie a été diagnostiquée. Et là, en fait, les médecins ont décidé que je ne pouvais plus aller à l'école.
D'accord.
Donc, j'ai dû faire quelques mois de CP. Et là, retour à la maison, je suis rentrée, en fait, dans une vie de malade. Donc, j'ai été, dès mon plus jeune âge, coupée des gens de ma génération. Et ça a duré plusieurs années, jusqu'à mes 10-11 ans. J'étais suivie à l'hôpital Cochin,
à Paris.
À Paris. dans un service spécialisé, parce que je suis atteinte, on va parler un petit peu de ma maladie,
oui.
En fait je suis atteinte d'une polyarthrite chronique évolutive, dite de style, style comme acier. En fait, mes articulations, toutes mes articulations, au fil des années, ont été atteintes par cette maladie. Et ça a commencé par le poignet, et puis après, les genoux, les cervicales, enfin, toutes. On a beaucoup d'articulations dans le corps, jusqu'aux articulations de la mâchoire. Vers l'âge de 10 ans, j'étais en fait dans un amphi à l'hôpital Cochin. J'avais entre 150 et 200 médecins devant moi. Le professeur qui me suivait m'a demandé si la France était un pays ou une région. J'ai répondu bien sûr un pays. Et il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'assistante et qui a dit « Mais cette enfant est intelligente, il faut qu'elle retourne à l'école. »
D'accord.
Et ça, c'était un premier point. Et deuxième point, ma mère m'avait inscrite au catéchisme. Le catéchisme, c'est de passer dans une école désaffectée, on va dire. Et un jour, je lui ai dit, mais si je peux aller au catéchisme, pourquoi je pourrais pas aller à l'école ? Donc, ces deux points conjugués ont fait que j'ai réintégré l'école primaire en CM2, avec simplement quelques mois de scolarité à domicile. Et en CM2, ben voilà, j'ai repris le cours normal de ma scolarité en CM2. Et puis allez, je suis allée après jusqu'en licence et un peu plus. En fait, j'ai bac plus 5.
Vous dites que la maladie a été diagnostiquée chez vous à 7 ans.
Oui.
Comment ça s'est manifesté justement à 7 ans ?
En fait, j'étais en train de faire la bagarre, comme on dit, entre enfants avec mes frères. On rigolait, on s'amusait. Et puis un de mes frères, en fait, m'a tordu le poignet, sans le vouloir, bien sûr. Il n'y avait aucune espèce de méchanceté.
Oui, c'est de la chamaillerie entre
oui,
frères et sœurs.
Oui, une chamaillerie. On faisait la bagarre. Et puis, je suis pratiquement tombée dans les pommes sous la douleur. Donc ma mère a tout de suite été alertée en disant mais c'est la réaction est disproportionnée par rapport au petit geste que mon frère m'avait fait. Et voilà, donc premier rendez-vous chez le médecin généraliste qui a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc premier médecin spécialiste à Évreux dans le département de l'Eure. Qui a dit oh là là, et après.
Il a vraiment dit oh là là ?
Il a dit oh là là, ouais, devant ma mère en pleurs. Et moi, je comprenais pas ce qui me tombait sur la tête. Moi, jusqu'à 7 ans, j'avais une enfance tout à fait heureuse et classique. Et à partir de ce moment-là, ma vie a basculé. Et ça fait pratiquement 60 ans que ce basculement continue. Alors, ça, c'est.
Parce que c'est les débuts, là. Du coup, quand vous avez 7 ans, c'est le diagnostic. Mais vous n'êtes pas, évidemment, vous n'êtes pas encore en fauteuil. Il n'y a pas encore
tous les symptômes de la. Enfin, les symptômes de la maladie sont là, mais les effets de la maladie, c'est-à-dire qu'une maladie. La polyarthrite, c'est une maladie handicapante, en fait. Mm-hmm. On connaît la paraplégie, la tétraplégie, ce qui n'est pas la même chose. Hein. On peut dire que c'est une maladie aussi tétralisante.
D'accord.
C'est un mot qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que la maladie engendre le handicap.
D'accord.
Et la perte d'autonomie. Mais à cette époque-là, bien sûr, vous m'auriez croisé dans la rue, vous n'auriez pas pu détecter le fait que je sois handicapé.
Alors justement, pourquoi on vous empêche d'aller à l'école ?
Pour ne pas me fatiguer, pour ne pas être bousculé aussi dans la cour de récréation. Et surtout, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous médicaux. Hein, l'hôpital Cochin, c'est Paris. Quand on habite dans le département de l'Eure, c'est des déplacements. D'ailleurs, une anecdote, ma mère a passé son permis de conduire à cette époque.
Pour pouvoir vous emmener.
Pour pouvoir m'emmener partout. Et c'était le début de nombreux voyages. Elle a continué, par exemple, à m'emmener à la fac, à Rouen, enfin bref.
Justement, vous disiez tout à l'heure que vous êtes retourné à l'école. Alors, vous avez fait toute votre scolarité à l'école élémentaire, notamment chez vous, donc vous n'êtes pas allé à l'école, c'était plus une scolarité
en fait,
à distance.
Même pendant ces trois années où j'aurais dû recevoir une scolarisation, en fait, j'en ai pas reçu.
D'accord.
Mais une seule année qui pourrait correspondre à peu près au, au CE2, j'étais inscrite en fait au cours par correspondance.
D'accord.
Et suivie par une astite bénévolement qui m'aidait, parce que c'est très très difficile les cours par correspondance quand on est vraiment enfant.
Quand il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu, ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute de bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. L'un de nous deux bouge, couché sur les fourmis rouges. Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères, quand on s'est mis nous. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché.
Alors nous sommes avec Catherine Papouin, trésorière de l'association Vivre Debout. C'est une association saint-quentinoise qui milite notamment pour l'amélioration de la vie des adultes grands handicapés physiques. Alors Catherine, vous nous disiez à l'instant qu'en CM2, vous avez pu retourner à l'école.
Oui.
Cette scène, elle est assez hallucinante. Hein, parce qu'en gros, vous vous retrouvez devant une centaine de personnes. Donc il y a des médecins, peut-être des étudiants
toute
aussi. En plus, toute nue.
Que avec un slip.
D'accord.
Sur une table d'auscultation.
Oui.
Les médecins me passent sur moi, les uns après les autres. L'un pour me faire bouger le poignet, l'autre pour me faire bouger la cheville. Et puis un grand ponte qui est sur sa tribune, au-dessus de moi, et qui dit le cas pas point, le cas pas point. Parce qu'en fait, cette maladie, quand elle prend très jeune comme ça, elle est assez rare. Les médecins sont démunis. À l'époque, un peu moins maintenant, parce que quelques traitements dont je ne peux pas bénéficier, parce que ma maladie est trop installée. En fait, c'est point d'interrogation. Et puis, il y a des anecdotes incroyables. On me demande de faire un tableau. Alors, bien sûr, l'informatique à l'époque existait peut-être, mais elle n'était pas dégénéralisée comme maintenant. Mmh. On me demande de faire un tableau type Excel avec tous les résultats sanguins.
D'accord.
J'ai tenu ce tableau toute mon adolescence, et un jour ce tableau a disparu de l'hôpital Cochin.
Et vous ne savez pas où il est ?
Si, le grand ponte savait où il est, en fait il a été dérobé par un étudiant qui a fait sa thèse dessus.
D'accord.
Voilà, plein d'anecdotes comme ça, qui jalonnent en fait.
Je suppose que c'est marquant quand on vous appelle le cap à point. Comme si c'était
c'est absolument traumatisant.
C'est traumatisant. Ouais.
Je vous raconte aujourd'hui, pratiquement 60 ans après, comme si j'y étais. J'ai une maladie de vieux, j'ai une maladie de personnes âgées, hein, la polyarthrite, parce qu'on connaît l'arthrite, l'arthrose des personnes âgées.
Ouais.
J'ai toujours été soignée dans un service et par des médecins spécialisés un peu personnes âgées, on va dire ça comme ça. Et avant de rentrer dans cet amphithéâtre avec tous ces médecins, on me faisait déshabiller. Je gardais que mon slip et on me mettait un peignoir bordeaux marron, extrêmement laid comme couleur, et qui avait taille 44-46. Et les infirmières s'acharnaient à vouloir me mettre ce peignoir et à remonter les manches. Un revers, deux revers, trois revers, quatre revers. J'avais 3 kilos à chaque bras. Déjà, j'avais déjà du mal à les bouger, mes bras. Mais en plus, avec ce poids, on me faisait rentrer dans cet amphithéâtre en soulevant le peignoir comme une traîne de mariée. Mmh. Sans ça, je me serais pris les pieds dedans, bien sûr. Mmh. Et puis après, voilà, j'étais là. Et puis, ces médecins qui me manipulaient, qui me faisaient mal. Mmh. Les uns après les autres, parce qu'il fallait qu'ils apprennent cette maladie. D'accord. Alors bien sûr, c'était pour la bonne cause. Mmh. Je peux être face à n'importe qui. Mmh. Depuis cette période-là, des personnes importantes, des assemblées, un auditoire, peu importe. Je veux dire, je n'ai...
Ça vous a endurci, vous voulez dire?
Complètement. Mmh.
Pour terminer sur cet épisode, justement, parce que vous parliez tout à l'heure d'intelligence. Vous disiez qu'on vous a posé une question, est-ce que la France est un pays ou une région, pour tester votre intelligence. Alors pourquoi est-ce qu'on essayait de tester votre intelligence, notamment ce qui vous a permis après d'aller à l'école?
Alors pourquoi, je pense que ça vient de quelque chose de très profond. Cette question est très intéressante en fait, parce que l'assimilation entre l'état physique et l'état mental et psychologique. En fait, qu'est-ce qu'on est pour un médecin? Surtout pour cela et à cette époque-là. Ce qu'on est, on est une maladie.
On est dans les années 60, oui.
Ouais, on est dans les années 60. On est une maladie, on est un cas médical, on est des douleurs à diminuer. Mais jamais, jamais on ne m'a posé la question de savoir comment je la vivais. Qu'est-ce que je faisais avec, comment je vivais avec cette maladie. À cette époque-là, le bien-être de la personne, du patient, n'était pas une préoccupation du corps médical. Et c'est peut-être ce médecin, je le remercie de s'être relevé, d'avoir osé affronter le pontre, son patron, mm-hmm. qui était vraiment pas quelqu'un de facile. Et voilà.
Et c'est grâce à lui, en tout cas, que c'était volontaire. Hein. Il voulait, parce que lui, il était convaincu que voilà, vous étiez, malgré le handicap, une personne intelligente comme les autres enfants et que vous étiez capable de raisonner, d'apprendre.
Exactement. Etc.
Est-ce que vous vivez cet épisode finalement avec du recul et cet endurcissement comme quelque chose de positif ou pas? Est-ce que ça vous a plutôt servi après dans votre vie de plus tard par rapport à votre situation? Ou est-ce que vous en seriez bien passé?
C'est ce moment de vie que j'ai vécu comme un traumatisme, que mes parents aussi ont vécu comme un traumatisme, mais avec bien d'autres épisodes de ce type-là, très, très difficiles à vivre, je pense que ça a forgé ma personnalité. Et je pense que c'est plutôt un bien, que en fait, je l'ai transformé en positif, parce que ça m'a appris à me battre, à ne pas courber les chines, de voir les hommes comme tous égaux, et surtout pas au-dessus de moi. Je suis égale aux autres, malgré l'handicap, malgré la perte d'autonomie, malgré le fauteuil roulant dont je ne peux pas me passer, malgré les gestes qui sont quelquefois douloureux. Ça a forgé mon caractère. Moi, je devais avoir une base de caractère comme ça.
Je devais avoir une base de fort caractère.
Oui.
Alors justement, quand vous retournez à l'école en CM2, comment ça se passe avec les autres enfants? Est-ce qu'on vous protège? Est-ce qu'on dit attention, il faut faire attention à Catherine, etc. etc. Comment ça s'est passé?
Alors quand je retourne à l'école, en fait, je découvre un univers que je ne connaissais pas. Mais je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Je me suis dit... Je vais enfin pouvoir apprendre, je vais enfin pouvoir avoir des camarades. Bon, j'ai été privée de cours de récréation, hein, parce que ça, c'était trop compliqué. J'ai pas sauté à la corde, mais j'étais trop, trop, trop heureuse. Je pense que c'est un des meilleurs moments de mon enfance. Et puis là, je me suis mis à travailler. En fait, j'étais une très, très bonne élève. Mais quand les autres s'amusaient dans les Enfin, je sais pas. J'étais focalisée sur les apprentissages scolaires. Je travaillais beaucoup. Et puis, bon, la maladie m'interdisait en fait quelques distractions quand même qu'on peut avoir à cet âge-là. Donc, moi, je compensais ce manque de distractions, de jeux, de rigolades par une quantité de travail abattu. Enfin, j'étais très, très bonne élève.
Du coup, vous étiez une très bonne élève.
Oui, en CM2, avant mon passage en 6e, dans ma petite ville, en fait, il y avait une remise de prix. J'ai eu tous les prix. Ça a posé un problème d'ailleurs. Parce qu'il fallait.
Pourquoi ?
Parce qu'il y avait un prix, un livre par matière.
Donc vous avez raflé tous les.
Oui, je devais en avoir une dizaine. Ouais. Sauf que je ne pouvais déjà plus les porter. Je ne pouvais plus les porter, c'était trop lourd. Et ma mère a dû monter sur scène pour m'aider à les porter. Elle était fière. Elle était tellement fière.
Et ça rendait la maman fière, en tout cas.
Et mon père aussi.
Le père.
J'ai eu des parents admirables.
C'est la fin de cette première partie d'émission consacrée au parcours de Catherine Papouin. Sachez que vous pouvez la retrouver en podcast comme toutes les émissions de la radio sur notre site internet marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Haye.